Bonjour à tous et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, nous reviendrons sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, comment défendre la laïcité? Le printemps républicain en a fait sa vocation et son combat. L'association est au cœur de nombreuses polémiques, accusée de promouvoir un intégrisme laïque, d'incarner une radicalisation de la laïcité, l'expression est d'Emmanuel Macron. Erreur funeste du printemps républicain, d'après le président de la République, ne parlait que de l'islam. Invité du grand face-à-face, Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques, fondateur du printemps républicain. Nous ouvrirons le débat avec lui dès 13h30.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on démarre avec le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer évidemment avec le mouvement social, mouvement qui se durcit, porté par la bataille du rail et la grève à la SNCF. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe, il était l'invité de France Inter jeudi dernier.
Je vous confirme que nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette réforme. Je préférerais que la grève, respectable au sens où une liberté constitutionnelle doit être respectée, je préférerais qu'elle ne dure pas. Parce que je pense à tous ceux qui ont besoin du train pour aller travailler, être libre d'aller et de venir. Je vous fais observer du reste que c'est une autre liberté constitutionnellement garantie.
Les libertés et d'un autre côté la détermination, Natacha.
Oui, ça c'est la rhétorique classique dans ce genre de mouvement où on est dans une guerre de position puisque la question est de savoir de quel côté va basculer l'opinion. Or ce qui est très frappant dans ce conflit, c'est que alors qu'on nous a présenté depuis un an le pays comme ayant accueilli avec des vivas l'idée de réforme qui était enfin portée par Emmanuel Macron, mais on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Ce qu'on aurait pu comprendre d'ailleurs en regardant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, hein, grosso modo 24% pour Emmanuel Macron, 20% pour François Fillon, ce sont ceux qui adhéraient à cette conception de l'adaptation à la mondialisation néolibérale. Et c'est ceux-là qu'on retrouve à peu près qui soutiennent la réforme. Et en face, on a des...
Oui, mais regardez la réforme du Code du travail qui est passée sans heurts, en tout cas avec beaucoup moins de difficultés que ce qu'on aurait pu imaginer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de mobilisations qui s'agrègent. Raphaël Glucksmann.
Déjà, la réforme du Code du travail faisait partie et était même l'emblème du programme d'Emmanuel Macron. Donc il y avait une forme de inéluctabilité intégrée par la population à sa mise en pratique, à sa mise en place. Mais surtout, je pense que c'est l'accumulation d'une forme d'arrogance qui aussi a beaucoup réveillé les opposants.
Pourquoi l'arrogance ?
Il suffisait d'écouter votre antenne cette semaine, le matin sur France Inter, on avait l'incarnation de cela. Quand on entendait Monsieur Attal, par exemple, venir ici...
Gabriel Attal, député La République En Marche.
Donner des leçons et
porte-parole du parti.
Et symboliser une forme vraiment de morgue donnait envie à l'auditeur, même s'il pouvait comprendre le fond des arguments, de prendre sa carte à la CGT dans la seconde.
Ah bah l'auditeur est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qui était intéressant, justement, en écoutant Gabriel Attal, c'était au micro de France Inter, il parlait de gréviculture. Le mot s'est imposé comme le mot de la semaine. On fait grève et on négocie ensuite. Ce serait ça la gréviculture. Il a raison, c'est une tradition française.
Il y a une tradition de grève en France, mais dans ce cas-là, on peut rétorquer qu'on impose un texte et ensuite on négocie. Enfin, je veux dire, l'attitude du passage en force du gouvernement là-dessus, à mon avis, a aussi précipité les choses. Mais il y a surtout une question de fond, qui est le rapport au service public. La notion de service public. Et moi, je suis convaincu qu'ils ont sous-estimé l'attachement profond des Français à cette notion de service public.
Natacha. Oui, et aussi le fait que les Français ne sont pas complètement idiots, c'est-à-dire que quand on transforme un établissement public à caractère industriel et commercial en société anonyme à capitaux non cessibles, c'est qu'à un moment donné, on se dit que les capitaux vont pouvoir devenir cessibles. C'est la logique. Mais surtout, je crois qu'il faut revenir longtemps en arrière pour comprendre comment on en arrive à cette situation. Et c'est cela qui permet de comprendre aussi pourquoi on a des posture beaucoup plus que du débat et une réflexion de fond. C'est tout simplement parce que cette réforme, même si elle n'était pas officiellement dans le programme d'Emmanuel Macron, elle y était par essence. Elle était déjà là. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà là depuis des décennies. En fait, quand Lionel Jospin et Jacques Chirac sont allés en 2002 signer le texte de conclusion du sommet européen de Barcelone, il y avait dans ce texte tout le programme d'Emmanuel Macron et qui petit à petit n'a pas
enfin le programme qui, ferroviaire.
Non, de tout le programme.
En général.
Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas seulement la libéralisation des services publics, il y a la réforme des retraites et il y a la flexibilité du marché du travail. Tout cela a été accepté par les deux grands partis de gouvernement en France qui ont signé cela. Michel Barnier, à l'époque, qui était commissaire européen, avait signé un texte, un article qui parlait du grand secret de la présidentielle où il expliquait que si on voulait avoir des débats honnêtes dans cette présidentielle de 2002, il aurait fallu expliquer que ce texte allait présider aux destinées de la France. Donc nous en sommes aujourd'hui à cela, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au pied du mur. On ne peut plus faire semblant de ne pas avoir signé ce texte. Mais comme pendant
mais
des
en
décennies,
2002, Emmanuel Macron était encore étudiant.
Oui, mais comme pendant des décennies, nous avons des hommes politiques qui n'ont pas admis cela, nous avons aujourd'hui quelqu'un qui, par mécanique, puisqu'il a adhéré profondément et beaucoup plus que les autres et plus ouvertement à la logique européenne telle qu'elle est définie depuis ces textes, eh bien, il est logique qu'il aille vers cette réforme ferroviaire et qu'il ne lâche rien.
Raphaël.
Il y a, c'est vrai, un lien clair avec les directives européennes, mais par exemple, l'ouverture à la concurrence, dont on doit débattre, à mon avis, l'ouverture à la concurrence ne signifie pas nécessairement l'abandon des statuts. Quand ils font des cheminots...
Curieusement, ça va toujours de pair.
Bien sûr. Mais parce que ils continuent la logique de cette directive.
C'est-à-dire
que,
voilà, mais donc, elle est conçue pour cela.
Bien sûr. Mais ils vont au-delà d'elle-même dans cette logique-là. Et ils font des cheminots une cible parce qu'ils pensent que c'est une cible facile. C'est-à-dire que on va pouvoir mobiliser le reste de la population contre des avantages acquis.
Bien sûr. On utilise le statut des cheminots pour traiter la question la libéralisation des services publics.
Et donc, à mon avis, dans le sursaut de l'opinion, il y a aussi le refus de cela.
Enfin, le sursaut de l'opinion, pour le moment, la bataille de l'opinion, elle n'est pas gagnée, ni d'un côté ni de l'autre.
C'est divisé, l'opinion. C'est très partagé.
C'est très partagé, mais c'est une nouveauté, puisqu'on nous a expliqué que tout passait comme une lettre à la poste auprès de l'opinion jusqu'ici. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est que malheureusement, on n'a pas le grand débat qu'il faudrait sur justement cette notion de service public. Et je veux juste citer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit « La priorité de cette réforme, c'est de transformer la SNCF pour la rendre plus compétitive » et même dégager des bénéfices.
C'est la question de la différence entre une entreprise et un service public. Nous sommes d'accord là-dessus.
Oui, mais sauf que c'est ça le débat.
Mais bien sûr qu'il est là le débat. Sauf que
on va avancer dans le débat.
Juste une chose, vous ne pouvez pas avoir ce débat-là si vous n'admettez pas que la construction de l'Union européenne telle qu'elle s'est faite depuis l'acte unique de 1986, justement brouillait les cartes et essayait de détruire les services publics pour construire des entreprises chargées de faire du profit.
Mais pourquoi le dialogue aujourd'hui est-il impossible ? Après tout, il y a des syndicats, il y a un gouvernement et il n'y a pas de dialogue social.
Mais parce qu'il y a des gens qui acceptent cette logique de l'Union européenne depuis des décennies et qui tout à coup font semblant de découvrir les conséquences. Même les syndicats sont dans ce jeu-là. Alors que le peuple français a tout de même, la seule fois où il a été interrogé sur ces questions-là, répondu qu'il n'en voulait pas, c'était en 2005. Tout le monde s'est assis dessus.
Il avait auparavant dit oui à Maastricht.
Mais quand la logique est apparue, là en revanche il y a eu un non.
Bon, mais revenons en 2018. Convergence des luttes, c'est l'expression à la mode. Il y a donc plusieurs mobilisations, celle des cheminots dans certaines universités, les dockers. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une coalition de ces mouvements aujourd'hui et par ?
Moi, je pense qu'il y a une coalition des mécontentements. Maintenant que ces luttes se rejoignent pour refaire un mai 68 fantasmé, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire et même je ne crois pas que ça se produira. Par contre, ce qui est certain, c'est que ne pas écouter ces mouvements, continuer à jouer au tennis le week-end, c'est à mon avis se préparer à de réels troubles et à une chute de popularité certaine.
Mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que même si aujourd'hui le gouvernement reculait ponctuellement, ce que je ne crois pas, parce qu'encore une fois c'est un enjeu de survie pour lui, on se retrouverait dans cette situation qu'on vit depuis plusieurs décennies, à savoir que certes, le gouvernement ponctuellement a reculé, mais qu'on sait que cette proposition ou une autre semblable reviendra sur le tapis, parce que c'est toute la logique du système économique et politique. Donc la question, c'est de savoir comment on offre, au-delà d'un simple mouvement social, une alternative politique pour refonder totalement le système sur lequel est construite notre société.
Un mot encore avant de tourner la page. Est-ce que c'est la fin de l'état de grâce, comme on dit pour Emmanuel Macron, Natacha ?
Le concept d'état de grâce est un concept de journaliste politique, à mon avis, et l'état de grâce n'a jamais vraiment existé. Il y a un chiffre essentiel à citer aujourd'hui. Emmanuel Macron a 39% d'opinion favorable dans un sondage publié par Les Échos, ce qui ne signifie strictement rien. En revanche, derrière, il y a un chiffre beaucoup plus intéressant. 65% d'opinion favorable chez les cadres, 27% d'opinion favorable chez les classes populaires. Cet écart n'a jamais été aussi grand. Je pense qu'il nous raconte l'état du pays au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron.
On revient en fait à la structure sociale de la carte électorale au moment des élections. Et donc c'est un vrai problème. Tout l'enjeu du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était de savoir s'il pouvait dépasser ce socle électoral dans sa politique et abolir cette lecture, qui est une lecture à peu près évidente quand on regarde la carte électorale, qui est une lecture de classe sociale.
Donc le président des riches ne doit pas jouer au tennis.
Il fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas prendre de haut cette colère.
France Inter, Natacha Polony. Raphaël Glucksmann, le duel.
On quitte la France cette semaine aussi et ça se passait à Ankara. Le président turc Erdogan recevait en grande pompe Vladimir Poutine et le président iranien Hassan Rouhani. La triplette de fer, comme on dit, était réunie. Sommet consacré à la résolution du conflit syrien. Ils se sont engagés pour un cessez-le-feu durable. Écoutez le président turc Erdogan.
Nous partageons de nombreuses inquiétudes avec notre ami russe en Syrie. Nous croyons que l'avenir de la Syrie est trop important pour être laissé au projet des organisations terroristes comme Daesh ou les organisations armées kurdes. Dans ce cadre, nous allons poursuivre notre coopération en nous concentrant sur nos intérêts communs.
Recep Tayyip Erdogan, c'était mercredi dernier. Une photo de famille Erdogan-Poutine-Rouhani. Raphaël Glucksmann, cette photo de famille vous a alerté.
Oui, et en particulier celle qui précède la photo à trois, qui est la photo à deux entre Erdogan et Poutine. Et les coups de canon, la garde à cheval, les sourires ravis face à la carte de la Syrie qu'on imagine. En fait, on croyait vivre au XXIe siècle, et bien on est en plein XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il se découpe un pays qui s'appelle la Syrie. C'est le résultat de... tergiversation et de renoncement et d'abandon occidentaux. Et qu'est-ce qui se passe ? Erdogan obtient des Russes qu'il fait ce qu'il veut au nord.
Et, au nord de la Syrie.
Au nord de la Syrie. Et donc il
et pour
peut
être
bombarder
clair,
les
Kurdes. Il veut pouvoir poursuivre ses opérations dans le nord-ouest de la Syrie, notamment
sûr,
dans l'enclave kurde d'Afrine.
Et d'ailleurs, son principal conseiller a reconnu que sans l'aide de la Russie, jamais il n'aurait pu reprendre Afrine. Et à contrario, ou vice-versa, ou en conséquence, Vladimir Poutine fait ce qu'il veut sur le reste du territoire de la Syrie. Et cette rencontre de deux autocrates assumés, c'est la bérésina de l'Europe. C'est d'abord une calamité pour les Syriens et pour les Kurdes, mais c'est la bérésina de l'Europe et des États-Unis dans la région.
Qui étaient les grands absents de la photo de famille.
Bien sûr, les grands absents de la photo de famille, exclus, et dont l'exclusion a été théorisée par les deux leaders. Et c'est par ailleurs l'affirmation, alors que tout le monde pensait qu'il y avait une rivalité entre les Russes et les Turcs extrêmement profonde, c'est l'affirmation d'une cohérence idéologique. C'est deux modèles autocratiques qui se posent comme des contre-modèles aux démocraties européennes, et ceci à nos frontières. Et c'est extrêmement dangereux pour nous.
Natacha,
disons que vous faisiez remarquer, Ali, que les Occidentaux, en particulier les Américains, avaient auparavant essayé plus ou moins de découper la Syrie. C'est-à-dire qu'il y a eu là une politique absolument catastrophique. D'abord, en 2016, Robert Kennedy Jr. avait expliqué dans un article qui avait fait beaucoup de bruit le déclenchement de la guerre en Syrie et comment tout cela partait d'une affaire de gazoduc qui devait favoriser les intérêts du Qatar et de l'Arabie Saoudite et qui pas été accepté par la Syrie. Et tout cela joue énormément dans le déclenchement de cette guerre. Ensuite, il y a eu de la part du secrétariat d'État américain un découpage du Moyen-Orient.
Je termine.
Une révolte populaire, vous savez, ça peut aussi se susciter, en tout cas se favoriser. On peut se greffer dessus et ça s'est déjà vu, je pense, dans l'histoire du monde. Simplement, le secrétariat d'État américain avait produit une carte de ce que devait être le Moyen-Orient selon lui, avec un découpage. Alors, il y avait un Kurdistan, il y avait différentes choses, mais qui étaient totalement irréalistes. C'est-à-dire qu'on est face à une reconstitution de blocs, parce qu'il y a eu un irréalisme des Américains, qui ensuite ont abandonné en rase campagne les gens qu'ils prétendaient aider, à savoir les Kurdes. Et hélas, nous en sommes là aujourd'hui, et je pense que la seule solution, malheureusement l'Europe ne pèse plus rien là-dedans, et simplement la seule chose à faire, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire tout simplement d'essayer de commencer à soutenir les Kurdes. Pour le reste, il va falloir beaucoup de temps pour sortir de là.
Raphaël ?
Non mais la lecture du conflit syrien, à mon avis, est complètement erronée. C'est pas une histoire de gazoduc, c'est l'histoire d'une révolution qui s'inscrit dans les révolutions arabes en général et qui a été réprimée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a abandonné nos deux alliés potentiels. Les opposants non djihadistes à Bachar el-Assad d'un côté, et de l'autre, les forces kurdes. Les unes, on les a abandonnées à Vladimir Poutine, les autres, on les a abandonnées à Erdogan. Et ça, on va le payer, parce que ce qui se passe, c'est que la crédibilité de l'Europe est complètement en ruine.
On va le payer en quel sens ?
Et on va le payer dans ce sens que, un, Erdogan et Poutine vont être les hommes forts de la région, et deux, dans le fait que notre modèle, parce qu'il ne s'agit pas simplement ici de géostratégie, il s'agit aussi d'idéologie. Notre modèle politique, la démocratie...
Mais il est aussi question de frontières.
Oui, mais la démocratie...
Est-ce que pour vous, il faudrait par exemple accorder aux Kurdes un État ?
Non, mais il faut peut-être pas, mais en tout cas, il faut absolument les empêcher d'être massacrés par Erdogan.
Certes, mais notre modèle, et il est, en effet, il repose sur une idéologie, et cette idéologie ne consiste pas normalement à aller déstabiliser des pays parce qu'on a une certaine vision de l'imposition, certes de la démocratie, mais on
non,
voit ce qui s'est passé depuis des décennies à cause
Syrie,
de cette politique
par
américaine.
Contre, quand on établit des lignes rouges, qui est l'utilisation des armes chimiques, et qu'ensuite on ne fait pas appliquer ces lignes rouges, eh bien le résultat, c'est que des puissances comme la Turquie et la Russie remplissent le vide et établissent leurs lois.
Mais le vide, il a été fait déjà dès 1991 avec la politique de Bush vis-à-vis de l'Irak, et ensuite confirmée en 2003. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de tout cela. Alors certes, il y a la révolte, il y a les printemps arabes, mais les printemps arabes ensuite ont été vécus de différentes manières dans les différents pays, suivant des questions aussi de géopolitique que vous ne pouvez pas nier, vous ne pouvez pas faire semblant qu'il n'y ait pas aussi cela.
Un mot, Raphaël, avant d'ouvrir le débat de la semaine.
Je ne nie pas ce que je remarque, c'est que Vladimir Poutine et Erdogan, tous les deux incarnent une forme de contre-modèle. Par ethnocentrisme, on n'a jamais voulu considérer ces régimes pour ce qu'ils représentaient idéologiquement. Or, leur idéologie fondamentale, c'est absolument de refuser les principes de la démocratie libérale. Et donc, ils vont pousser leur avantage. Et en Europe même, il y a de plus en plus d'adeptes de ce type de rapport au monde qui est un rapport profondément autoritaire et vertical.
Merci à tous les deux. Le grand face-à-face continue avec maintenant le débat.